moi, je trouve que les Halles, c'est vraiment Paris. Hein. Bon, il y a des gens vraiment assez exceptionnels. Hein. Au niveau du spectacle, pour les yeux. Hein. C'est très fou, c'est ce qu'on attend tout compte fait de Paris. Je crois que c'est vraiment les Halles, c'est un peu le pouls de Paris. Hein.
Les Halles comme cœur battant de la capitale, mais pour combien de temps encore? Décrirait-on aujourd'hui ce quartier comme on le faisait au journal télévisé diffusé il y a bientôt 35 ans et qu'on entendait à l'instant? Françoise Fromono, vous êtes architecte, professeur, critique. C'est le deuxième ouvrage que vous consacrez à ce quartier mythique. Et un passage de votre livre nous offre une transition parfaite avec la première partie de cette grande table que nous consacrions à une exposition de la Fondation Louis Vuitton à Paris, je vous cite. Le territoire de Paris est devenu l'un des champ de bataille à laquelle se livrent les ténors de l'industrie du luxe au prétexte de contribuer à la vie culturelle d'une capitale qui compte déjà des musées par dizaines et au bonheur de la mairie qui craint qu'elle ne devienne une ville-musée. L'art contemporain, l'architecture, le patrimoine sont mis au service de l'image de marque de ces entrepreneurs planétaires pour le plus grand profit de ces activités qui financeront le mécénat dont tous ces arts dépendent de plus en plus. La réhabilitation du quartier des Halles est à vos yeux une véritable pièce de théâtre à rebondir. Bonjour Françoise Fromono.
Bonjour.
Le titre de ce livre s'appelle La comédie idéale, c'est paru aux éditions de La Fabrique. Bonne ou mauvaise pièce de théâtre?
Mais ça dépend de quel point de vue on se place. Pour l'auteur, c'est une bonne pièce. Les Halles sont un site qui est un bon client, entre guillemets. Mais si on considère le résultat de ces 15 dernières années de transformation, de dépenses, de polémiques, et qu'on se promène aux Halles, on est quand même au mieux déçu que ce qui promettait de réparer, dans tous les sens du terme, le traumatisme subi par le quartier depuis les années 60 et 70, se solde par voilà une sorte de gigantesque structure très emphatique qui est en fait l'enseigne du forum commercial, un jardin qui est un véritable crève-cœur et que les promesses éventuelles qui depuis 2003-2004 étaient faites n'aient pas vraiment été tenues.
D'ailleurs, tellement bonne pièce de théâtre que c'est le deuxième ouvrage que vous consacrez à ce quartier mythique de la capitale française. Pourquoi est-ce que ce sont, vous, un endroit nodal, un endroit central pour réfléchir à l'urbanisme, pour réfléchir à l'architecture, Françoise Fromono?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, par sa position géographique, enfin historique, les Halles ont été, comme chacun sait, l'emplacement du marché de gros de Paris pendant presque 800 ans, enfin depuis le XIIe siècle. Ils ont été ce fameux ventre de la capitale décrit par Zola en 1873, je crois. Et à la suite des transformations des années 60 et 70, ils sont, restant le centre de Paris, sont devenus aussi le centre du Grand Paris, puisque là aussi, on se souvient que la destruction du marché, son exil, enfin d'abord son exil à Rungis, puis sa destruction, puis le creusement du fameux trou au fond duquel on a construit cette gare hein, d'interconnexion des RER nord-sud-est-ouest, ont fait de cet endroit un des cœurs, enfin une des portes d'entrée de la périphérie dans Paris, en souterrain.
Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous écrivez votre premier livre et le moment aujourd'hui où vous publiez le second? Qu'est-ce qui a changé dans la pensée des villes? Qu'est-ce qui a changé dans la manière dont on se pense, pas tant à l'échelle justement d'une seule capitale, mais aussi en comparaison avec d'autres capitales, Françoise Fromono? D'une certaine manière, est-ce que ce chantier que vous auscultez est un signe des temps?
Absolument, il me semble. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je lui ai consacré deux ouvrages et puis des articles entre-temps. C'est qu'il me semblait qu'à cause de ce caractère à la fois unique et exemplaire de cet endroit, il était un bon thermomètre et un bon poste d'observation des transformations qui touchent les villes depuis une quinzaine d'années. Paris, évidemment, qui est une ville assez particulière tout de même par rapport aux autres villes mondiales. Alors, entre le premier livre qui est paru en 2005 et qui examinait, disons, à chaud, il a été écrit en quelques mois, la première consultation d'urbanisme lancée par Bertrand Delanoë qui s'est soldée par le choix d'un projet urbain, le projet de David Mangin, Avec à suivre un concours d'architecture pour sa pièce maîtresse et le second qui lui vient de sortir, qui est, j'ai mis plusieurs années à écrire et qui examine cette fois à froid les 15 années écoulées en essayant de remettre à plat les enjeux, les processus, les contradictions de toute cette affaire. Eh bien, il y a eu la crise de 2008, bien sûr, qui marque un point de bascule du projet, et pas seulement du projet des Halles, de l'urbanisme des villes en général, puisque, alors, pour s'en tenir à Paris, la crise a causé une crise des finances publiques qui a précipité ce qui est, à mon sens, et pas seulement au mien, le plus grand scandale de toute cette affaire, c'est-à-dire la vente de la pleine propriété des sous-sols des Halles, du forum commercial, à Unibail, qui en est le gestionnaire depuis longtemps, et qui a pu, voilà, pour compenser l'inflation des coûts et la baisse des finances municipales, faire pression sur la ville pour que lui soit vendu ce dont il n'était que locataire.
D'aucuns utilisent d'ailleurs le mot bradé, Françoise Fromono. Peut-être on peut parler un peu de chiffres comme ça. À combien la ville vend cet espace qui va être un espace commercial qui va générer des millions, voire des milliards d'euros pour pouvoir, d'une certaine manière, continuer de construire?
Eh bien, les chiffres diffèrent selon les sources. Je cite plusieurs calculs dans mon livre. Je crois qu'on peut s'appuyer de manière plus incontestable sur le rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale, pardon, des comptes, qui est sorti en novembre dernier, juste au moment où je bouclais mon livre. Donc, j'ai réussi quand même à glisser ces chiffres dans le livre, qui estime que 100 000 mètres carrés de propriété, publique, ont été vendu 1420 euros le mètre carré en plein centre de Paris. Mais la question n'est pas aux Halles seulement une question d'argent, elle est, et c'est ça qui rend aussi les Halles très très intéressants, c'est que il y a une imbrication dans l'espace, c'est là que l'architecture, l'urbanisme prennent tout leur rôle dans ce qui sinon serait une sorte de querelle politico-financière comme il y en a d'autres. La spécificité du quartier et de cet endroit, c'est d'imbriquer dans l'espace très fortement les propriétés, les prérogatives, les responsabilités. Et ce n'est pas seulement le fait que la ville ait bradé le sous-sol des Halles à une des sociétés de gestion immobilière les plus puissantes de la planète, hein, 45 milliards d'actifs, je crois, côté au CAC 40, etc. C'est aussi le fait que, si vous pensez au site lui-même, eh bien le forum, ce sont les trois étages de sous-sol qui surmontent la gare, hein, qui sont sous la surface et qui surmontent la gare.
Immense gare de RER, 800 000... lien avec la périphérie urbaine, un point de départ et d'arrivée massif pour la capitale.
Un échangeur de flux colossal, 800 000 personnes y circulent par jour. Le problème, c'est que la vente, enfin, le fait que maintenant ces étages qui surmontent la gare soient privés, hypothèque de manière préoccupante toute évolution de cet espace public qui est enfoui sous le forum.
Et quoi, pour bien vous comprendre, hypothèque même le fonctionnement futur de la gare, Françoise Fromono?
Ben, le fonctionnement futur, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut imaginer qu'à long terme, avec la réforme des transports à l'échelle du Grand Paris, avec les évolutions de la métropole, avec les indispensables ajustements logistiques, que toutes les questions de développement durable, etc., ne peuvent manquer de poser, on puisse avoir besoin, je ne sais pas, un jour, de doubler la gare d'une gare de fret pour avoir des approvisionnements au centre de Paris. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de solutions. C'est une
et donc on serait bloqué. Il y aurait une sorte de péage d'Unibail pour pouvoir continuer à travailler dans cet endroit central qui alimente et en population et en marchandises la ville de Paris.
Alors absolument. Et en outre, alors sans attendre d'hypothétiques
transformations.
Au jour d'aujourd'hui, toute personne sortant de la gare a pu le constater, il faut passer par le centre commercial pour sortir à la surface. Il y a une sortie directe qui a été créée par le projet. Évidemment, le fait qu'un espace privé doive être traversé pour aller d'une gare publique à un sol urbain public est évidemment un problème.
Et précisons, hein, puisque si on suit votre pensée, Françoise Fromoneau, c'est pas seulement que ce soit un espace privé, c'est que ce soit un espace marchand. Vous avez utilisé à l'instant le mot forum et vous mettez en question dans cet essai La Comédie idéale l'idée que ce forum-là, qui a une signification historique extrêmement importante, à savoir un lieu d'échange pour la population, alors voilà, on l'utilise quand même. Est-ce qu'on a toujours raison d'utiliser ce mot-là pour désigner les halles si en fait il ne s'agit que de arriver en RER et éventuellement passer qui, je sais pas si on a le droit de le dire, à H&M ou à la Fnac.
Oui, bien sûr. Enfin, il faut quand même préciser aussi que dans les sous-sols des halles, il n'y a pas que du commerce. Hein. Il y a aussi des équipements municipaux, publics, notamment dans le nouveau forum, c'est-à-dire la deuxième moitié du site.
Mais pour ce qui concerne les espaces privés, c'est du commerce.
Ah, pour ce qui concerne les espaces privés, c'est du commerce. Et d'ailleurs, tout un pan de la remise aux normes des accès à cette gare souterraine a été surveillé de très très près par Unibail et par ses architectes qui ont veillé à faire en sorte que la meilleure distribution des flux entre la gare et la surface qui passe nécessairement par leur commerce permette de créer des césures dans les parcours, des paliers, etc. Qui favoriseront les achats impulsifs, qui du coup permettront d'augmenter le loyer des boutiques qui sont plus près des circulations, etc. Donc il y a une imbrication très très forte que le projet qui vient de s'achever n'a évidemment pas réussi à défaire, mais au contraire à crisper encore plus.
Vous disiez tout à l'heure que ce projet des Halles à Paris est finalement un très bon point d'observation pour la transformation urbaine de manière générale. Et ce serait intéressant qu'on réfléchisse avec vous, Françoise Fromoneau, à savoir est-ce qu'on peut partir de ça pour élaborer des idées ou des principes plus généraux de ce qu'entreprend aujourd'hui l'urbanisme ou certaines décisions urbanistiques à l'égard de nos villes et de nos centres-villes. Est-ce qu'il faut voir dans la transformation des Halles une métaphore vers du plus marchand, du flux de population dirigé pour moins d'échanges mais plus d'achats? Est-ce qu'on peut dire que c'est un principe qui gouverne aujourd'hui la transformation des villes?
Ah oui, absolument. Alors d'abord, il faut dire que la transformation des Halles, c'est l'hypothèse que j'avance dans le livre, permet d'achever cette sorte de grande traversée de la rive droite de Paris qui, du Marais jusqu'au Louvre, a vu ces derniers temps une transformation touristico-commerciale assez forte, touristico-culturalo-commerciale, disons. Et que les Halles, site commercial historique de la rive droite, était resté finalement le maillon faible de cet enchaînement.
Parce que vous écrivez trop cheap, trop populaire.
Trop cheap, trop populaire, décrié, une architecture tout de même assez consternante, des espaces publics usés, une zone piétonne mal gérée, des problèmes de sécurité, etc., etc. Donc la transformation qui vient d'arriver a permis un petit peu de faire monter en gamme le site pour l'intégrer dans ces transformations de la rive droite. Et puis ensuite, plus largement, par rapport à votre question, je crois que je montre dans le livre combien ces 15 ans de projet aux Halles permettent de regarder l'urbanisme sous tous ses aspects politiques, associatifs, commerciaux, communicationnels finalement de dresser une sorte presque de cartographie de tous les phénomènes qui gouvernent aujourd'hui la transformation des villes.
Et qui peut s'appliquer à d'autres villes en France, voire d'autres villes en Europe, voire d'autres villes dans le monde.
Absolument. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui des cas d'études, non pas similaires, mais équivalents, hein, qui sont traités par d'autres critiques que moi, à Nantes, à Bruxelles, ailleurs. Enfin, je veux dire, l'urbanisme est en train de générer, j'espère, je crois, une sorte de nouvelle critique de la manière dont nos environnements construits se modifient, parce qu'il embarque avec lui, l'urbanisme, toutes ces dimensions et qu'il en est là encore un très bon point d'observation.
Est-ce qu'il faut voir là un projet qui a des fins politiques précises, Françoise Fromoneau, lorsque vous citez des chercheurs qui voient ce genre de projet destiné à réduire les personnes de passage ou les Parisiens Parisiens, à des badauds, à des touristes, à des clients d'une certaine manière. Est-ce que ça veut dire qu'on veut en finir avec les personnes qui vivent sur place, veulent avoir une vie de quartier et éventuellement faire de la politique ?
Ah, je crois que ce serait un petit peu injuste d'accuser l'équipe municipale d'une telle intention. Je crois que c'est un effet plus qu'une intention. Je crois que quand Bertrand Delanoë lance en 2002-2003 la première consultation, l'idée est réellement de rompre avec les manières de faire l'urbanisme qui ont prévalu sous Chirac et avant, d'instaurer une démocratie participative puisque les associations ont participé à son élection. Il a fait des promesses en ce sens. Je pense qu'au début, voilà, il y a des bonnes intentions, mais que la ville manque terriblement de vision de Paris, la mairie.
Pourtant, un slogan très fameux dit « Réinventer, réinventer Paris ».
Oui, alors réinventer, on peut discuter de cette... je ne sais pas si ça me paraît assez étrange de vouloir réinventer Paris. Je ne comprends même pas quel est le sens de ce slogan qui a fait florès au point d'être adopté, pas seulement le slogan, mais aussi la manière de faire. Réinventer Paris, en gros, ça consiste à prendre des actifs de la ville publique dont la ville ne sait que faire, de les céder... soit par bail emphytéotique ou de les vendre à la découpe à des instances privées qui feront, avec des architectes, des projets qui permettront de dire « Regardez, Paris bouge ». Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait ce dont Paris a besoin.
Ça veut dire, Françoise Fromono, qu'il y a un enjeu justement à pouvoir dire « Regardez, Paris bouge ». Je parlais tout à l'heure du contexte particulier dans lequel vous écrivez ces deux livres-là, contexte qui change évidemment, mais qui doit quoi ? Tenir un propre discours sur la ville, faire d'une ville, une ville dynamique, une ville concurrentielle avec d'autres villes dans le monde. On est dans ce genre de régime-là lorsqu'on lance ces chantiers.
Absolument, oui. Je parlais tout à l'heure des intentions au départ de la ville de Paris au moment où elle lance cette réforme, cette énième réforme des Halles. Il y a absolument l'idée, rappelez-vous, hein, les années 2003-2004, avant la crise de 2008 toujours, cette concurrence instaurée par la mondialisation.
Aussi ligne de mire des JO 2012.
Alors, la ligne de mire des JO, enfin, toute cette volonté de transformer les villes à l'aune de leur compétitivité qui passe par un rôle accru des icônes construites qu'on demande aux architectes. Hein. Je rappelle dans le livre que finalement, c'est un petit peu avec Bilbao que tout ça commence. Enfin bon, c'est une histoire beaucoup plus complexe. Mais enfin,
disons, musée Guggenheim.
Le musée Guggenheim, construit par Frank Gehry, une fondation américaine qui envoie son architecte, un architecte américain, californien, construire un bâtiment tout à fait extraordinaire. Il est extraordinaire.
Il faut pouvoir lever le doigt en disant « moi aussi j'ai mon grand bâtiment ».
Voilà, il faut pouvoir lever le doigt en disant « moi aussi j'ai mon bâtiment, j'ai mes tours ». À l'époque, Londres reprend la construction de tours très spectaculaires. Et puis, la mondialisation a aussi mis sur la carte du monde des villes qui n'y étaient pas. Shanghai, Dubaï, etc. Et voilà, on est dans une époque de concurrence mondiale pour l'attractivité, pour le tourisme, l'attractivité économique pour le tourisme. Paris se met sur les rangs de cette compétition, peut-être en oubliant ce qui fait déjà sa spécificité, son histoire, son intérêt, son paysage.
Ce qu'il faisait.
Ce qu'il fait toujours. Enfin... Voilà, je pensais en venant, puisqu'on n'est pas loin du front de Seine, enfin, voilà, cette obsession qui est celle de la ville depuis 2002, de reprendre la construction de tours à Paris. Paris est la ville de la densité horizontale. Pourquoi vouloir absolument construire des tours ? Enfin voilà, ça pose toutes sortes de questions sur la relation entre les intentions du politique, sa culture de la ville et ce qu'il est possible d'envisager pour transformer les villes d'une manière qui soit réellement distinctive.
Et le discours qui va avec, on écoute une archive du journal télévisé en 1979.
On vous a parlé du trou dans le budget tout à l'heure, un trou qu'il faudra bien combler d'une façon ou d'une autre, mais pour ce qui est du trou des Halles, eh bien, c'est fait. Le Tout Paris et quelques autres se sont rués aujourd'hui à l'inauguration du Forum des Halles, derrière Jacques Chirac, le maire de Paris. Monsieur Chirac a félicité les architectes pour, Je cite, « Leur œuvre élégante et audacieuse dont le modernisme s'intègre avec bonheur à l'environnement du quartier » et il a insisté sur la rapidité avec laquelle l'opération des Halles avait été menée compte tenu d'extraordinaires difficultés techniques. En tout cas, pour les gens du quartier, pour les commerçants surtout, elles furent longues, ces 7 années ou 10 années pendant lesquelles ils durent patauger dans la boue des chantiers. Quoi qu'il en soit, le forum est né, vive le forum, qui avec le centre Beaubourg va faire de ce quartier un des pôles d'attraction de la capitale. Jadis, les Halles étaient le ventre de Paris, ça va enfin devenir autre chose.
Les choses se répètent et peut-être ne se ressemblent pas. Françoise Fromono, un journal télévisé de TF1, 1979, c'est l'une des époques que vous rappelez dans votre livre, La Comédie des Halles. Alors voilà, on entend un quartier destiné à devenir autre chose, on entend ce trou des Halles, trou comme un traumatisme aussi pour la population. Qu'en est-il du chantier plus contemporain que vous auscultez dans ce livre-là? Est-ce qu'il a été aussi source de traumatisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est réparé? Est-ce qu'une consultation populaire a eu lieu? Vous mentionnez des associations, notamment l'association Accomplir. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat, cette consultation-là? Est-ce qu'on a changé un petit peu d'époque?
Alors, la consultation des riverains et de via leurs associations a été ou devait être une des grandes nouveautés de la manière de procéder de ce projet. Et si traumatisme il y a eu, c'est peut-être là qu'il est le plus fort, puisque je le raconte, on a vu ces associations et une en particulier, la plus active, la plus offensive, disons prendre la main sur la concertation publique, s'engager avec enthousiasme et même avec une certaine agressivité, je dirais, dans la défense notamment de leur jardin, du bien-être un peu de proximité, à l'enseigne d'un intérêt réduit à l'échelle locale, c'est-à-dire défense de ces équipements de proximité. Et puis on a vu cet enthousiasme et cette alacrité se muer en désillusion au fur et à mesure que les décisions prises cessaient de convenir, et on a vu les associations se raidir, la concertation traînée, avoir l'air de devenir une sorte de prétexte, et puis finalement on a vu les associations de quartier unanimement furieuses contre le résultat du projet, avec un jardin sur lequel elles n'ont pas vraiment pu imposer leur vue alors qu'il avait été choisi avec leur aval, une canopée qui, outre son prix extrêmement élevé, pour céder au dictat d'Unibail et du gestionnaire du centre commercial, a vu une réduction des équipements publics de quartier qui devait être la nouveauté du projet. Et bref, on a vu les associations se muer en combattantes contre la ville, alors qu'elles étaient censées collaborer et inaugurer une nouvelle ère.
Mais justement, est-ce que c'est pas là une des limites des projets qui mélangent comme ça le public et le privé, avec des intérêts parfois complètement discordants? Françoise Fromono, quand on a Unibail, quand on a la ville de Paris, a priori, il peut y avoir des moments où ça achoppe. Est-ce que la consultation populaire ne trouve pas sa limite dans ce genre de montage financier extrêmement complexe et à des vues peut-être plus commerciales que d'intérêt public?
Oui, mais c'est le lot de toutes les villes et de tous les sites d'être le théâtre d'intérêts éventuellement conflictuels. Et il me semble que un des rôles de l'urbanisme, qui est trop souvent réduit à une branche de l'économie, du développement économique, l'urbanisme au sens noble du terme devrait être le domaine qui permet justement, à travers des transformations physiques proposées par les urbanistes, à tous ces gens et toutes ces forces de se parler.
Et là, vous diriez que ça a échoué?
Ben, d'une certaine manière, oui. Puisqu'on voit aujourd'hui, il suffit de se promener sur le site pour voir que les grandes intentions de départ ont été pratiquement intégralement dévoyées. C'est-à-dire que la canopée, enfin la grande toiture posée au-dessus du centre commercial devait être une sorte de grand symbole de la gare qui est en dessous aider, faciliter la montée des Parisiens, des grands Parisiens dans Paris. Elle s'est transformée en emblème du centre commercial privatisé. Elle devait fonctionner, cet espace, ce patio, devait fonctionner de bas en haut et amener les populations qui sont dans la gare et dans le centre commercial vers le jardin. En fait, on se rend compte que c'est plutôt le jardin et les gradins qui le relient au centre commercial qui fabrique une espèce de théâtre de la consommation, et que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut lire le projet. Le jardin devait être une sorte de nouveau lieu parisien. Il y a très peu d'espace vert à cet endroit de la rive droite. Il est très important. Il n'est pas seulement important pour les riverains, il est important pour toute la rive droite. Il n'est pas très très loin de la Seine. Voilà, on devait avoir un jardin soi-disant passant, de plein pied. Une sorte de... Voilà, il y avait l'occasion de fabriquer pour cet endroit une nouvelle idée de l'espace public vert, enfin, en ville. Or, il se réduit à une espèce de parvis, il est très très minéral, des allées en ciment balayé, quelques arbres...
Qu'est-ce qu'il faudrait, Françoise Fromoneau, pour arriver à des propositions urbanistes plus satisfaisantes? Est-ce que la piste d'une consultation citoyenne et populaire réelle est une bonne piste? Est-ce que les habitants et les citoyens ont toujours les bonnes idées pour leur propre vécu dans les villes? Est-ce qu'il faut s'interroger sur le rapport de force entre le politique et les entreprises avec lesquelles ils dealent les chantiers? Quelles sont les voies de possibilité pour qu'une ville meilleure, et donc une vie meilleure, soit possible?
Mais j'ai pas vraiment de recette, ça serait d'abord très présomptueux de ma part.
Ce serait super pour toi.
Non, je... La leçon, au fond, de ces 15 années des Halles, c'est que à mal choisir, à mal engager le projet, à opérer des choix politiques sous pression, qui sont des cotes mal taillées, eh bien on se condamne à dépenser beaucoup d'argent et à passer beaucoup de temps pour un résultat très peu glorieux.
Et que beaucoup d'argent public.
Beaucoup
notamment.
D'argent public. Hein, l'ensemble du projet a coûté 1 milliard. Alors qu'il était annoncé à 200 millions au début. Voilà, je pense qu'il faut, si je peux dire ça, prendre son temps au début, mettre les choses à plat, prendre le temps de déplier les problèmes qui se posent avant de décider. J'espère que le travail que j'essaie de faire et que d'autres font aussi sur d'autres projets pourra permettre éventuellement d'aider à mettre toutes ces questions complexes sur la table et à faire en sorte que les questions d'image, les questions de base politique ne soient pas les seuls moteurs de ces projets.
Justement, ce temps qu'il faudrait prendre, ce temps qu'il faudrait déplier, il est pressé par quoi? Par des échéances électorales, par exemple?
Bah exactement, c'est-à-dire que le temps de l'urbanisme, le temps de l'architecture, le temps
c'est
des
pas
consultations,
le temps des mandats,
ce n'est pas le temps des mandats. Voilà, il y a des échéances, il y a des... l'architecture, l'urbanisme sont souvent mis au service des élections suivantes et servent d'arguments pour les réélections. Et d'ailleurs, je montre dans le livre à quel point... Le premier mandat de Bertrand Delanoë est marqué par cette volonté de construire physiquement, visuellement,
vite
à Paris, et que le sol se dérobe sous ses pieds au fur et à mesure que les tours font polémique, la ville rate les JO, tout le monde, Chirac, Sarkozy, ont l'air d'être plus bâtisseurs que le maire de Paris. Et c'est aussi cette concurrence, cette instrumentalisation de l'architecture
qui provoque la fuite en avant,
qui provoque les fuites en avant et les problèmes. We'll be right back.
manger. J'ai eu envie d'attacher. J'ai même pas eu le temps de faire roux. Qu'elle m'a poussé sur un pouf.
Irremplaçable hymne des bains de douche à l'époque, lieu de la vie nocturne du quartier des Halles à Paris. Françoise Fromono, pour évoquer avec vous l'un des gestes qui a été opéré dans cette transformation du Forum des Halles, à savoir cette place consacrée, non pas là à la, qu'est-ce qu'on peut dire comme musique électronique, new wave, mais plutôt à la musique et à la culture hip-hop. Évidemment, ça a été un haut lieu pour la naissance et l'émergence du hip-hop en France, ce quartier des Halles. Qu'est-ce que c'est devenu dans le nouveau projet, Françoise Fromono?
Eh bien, c'est devenu un lieu qui est à l'étage de la canopée, c'est-à-dire qui n'a plus aucun contact avec la rue.
Et le sol.
Et le sol. Et qui se double en sous-sol, à côté de la piscine, d'un lieu dédié au parcours, vous savez, ce sport de rue des banlieues, hein, qui consiste à se donner une ligne droite et de franchir tous les obstacles qui se présentent sur cette ligne, donc qui a remplacé la très belle serre tropicale de la très belle piscine de Paul Chemetov dans le nouveau Forum. Donc on est en présence, voilà, de deux équipements un petit peu compensatoires, contextuels, qui ont été mis là un peu comme une sorte de jeton de présence de la culture de banlieue.
Qu'est-ce que ça dit de la considération politique et urbanistique et architecturale pour justement ces populations qui venaient de la périphérie parisienne et pour qui le quartier des Halles était une véritable porte d'entrée et encore, hein, une porte d'entrée dans la ville et vers plein d'autres choses. Qu'est-ce que ça dit, Françoise Fromono, de l'accueil qui leur est fait, cette forme de scénographie?
Eh bien, moi, il me semble que surtout ce que viennent chercher les jeunes de banlieue, si tant est qu'on puisse utiliser toujours cette expression
un peu
étrange, c'est le forum, c'est les commerces, les cinémas, c'est le quartier lui-même. Je cite des sociologues qui ont étudié cet endroit et qui expliquent à quel point, au fond, le Forum des Halles est pour la jeunesse de banlieue un lieu à la fois familier, puisqu'ils sont connaissent bien les centres commerciaux de banlieue, donc il est à la fois familier et exotique, hein, et qui leur tient lieu de Paris. Et à cet égard, je ne suis pas allée vérifier la fréquentation, hein, du centre de hip-hop ou du parcours, qui m'a paru souvent assez fermé, d'ailleurs. Mais voilà, on a l'impression d'une sorte de plus de symbole voulu par la mairie que de réelle considération pour cette jeunesse qui préfère, je crois, qui vient au Halles pour le quartier et son centre commercial.
Et qui ne pourra peut-être plus rien acheter au centre commercial si les fameux corners, comme on les appelle, des magasins très spécialisés, des épiceries fines et assez chères, des espaces culturels et des librairies spécialisées ne s'adressent pas nécessairement à ce genre de bourse. On peut considérer que c'est aussi une sorte éventuellement de remplacement des consommateurs.
Alors oui et non, parce que en fait ce sont les espaces du rez-de-chaussée de la canopée qui pour l'instant s'adressent plutôt aux Parisiens, donc qui comprennent les magasins plus luxueux. Hein, le forum en sous-sol a été rénové d'ailleurs assez très très bien par l'agence Sagaise et Partners, voilà, les commerces continuent à être dirigés vers une population qu'elle attire avec une attention très particulière et donnée voilà, au confort et au respect du client.
Merci beaucoup, Françoise Fromono. La comédie des Halles, intrigue et mise en scène est parue à la Fabrique Édition. Merci d'avoir été avec nous malgré la grippe. Il faudra bien écouter le message pour la santé qu'on diffuse sur France Culture. Merci. Un grand merci aussi à l'équipe de la Grande Table, Maya Neskovic, Antoine Suzarelli, Mathilde Tonfourcade, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc. Il prépare avec moi cette émission. À la réalisation, c'était Milena Hellig et au son, Florent Bujon.